d'aller se coucher.
On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
On ne naît pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission Transpédéguine.
Bonjour.
Donc vous êtes sur la plus rebelle des radios et dans l'émission de On n'est pas des cadeaux. Aujourd'hui, on va discuter avec deux copines qui vont bientôt arriver de la peinture faite par des gouines.
Ok.
Je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Les infos. Aujourd'hui, pour les infos, on va commencer par un petit reportage d'un envoyé spécial à Izmir, en Turquie, qui nous parle de la situation d'une association LGBT.
Bonjour Radio Canu. Et tous ces auditeurs et auditrices qui se comptent par millions dans l'agglomération de Lyon. C'est un petit coucou depuis Izmir, en Turquie, dans l'ouest de la Turquie, où l'asso LGBT, donc lesbienne, gay, transsexuelle et bisexuelle locale, vient d'être subir une interdiction, en fait, de la part de la municipalité. Donc, en fait, il faut savoir comment ça s'est passé. C'est que, en Turquie, pour créer une association, on doit passer par la municipalité qui transfère un bureau central à Ankara, la capitale, et qui examine la charte et tout un dossier à constituer pour la création des associations. Et donc là, le prétexte pour l'interdiction de cette association, c'est l'article 2 de leur charte, donc qui explique à peu près tous les buts de l'association, que je vous résumerai pas ici, mais en gros, dans les grandes lignes, lutte contre l'homophobie, en particulier campagne sur les crimes violents homophobes, comme l'homicide d'un journaliste il y a 2 ans, ou des ségrégations particulièrement... hardcore dans des restaurants qui sont explicitement fermés aux transsexuels ou aux homosexuels, etc. etc. Une espèce de soutien communautaire au niveau médical, au niveau juridique pour les personnes homosexuelles. Cette association, elle a été interdite pour atteinte aux structures de la famille et à la morale publique. Donc il y a un article très très flou de la constitution turque qui permet à peu près d'emmerder tout le monde dans la mouvance des luttes homosexuelles, des luttes transsexuelles, lesbiennes. Ça a déjà été utilisé contre des associations à Istanbul et Ankara, exactement par la même procédure, dépôt de dossier d'association, condamnation d'articles qui étaient en général communs à ces associations. Et il faut savoir, c'est un peu de l'acharnement, parce que la Turquie ose pas légiférer au niveau national de manière explicitement homophobe. L'homosexualité n'est pas interdite en Turquie, mais à la fois le pouvoir est complètement viriliste et phallocratique et ainsi de suite, dans sa doctrine bien nationaliste et très masculine. Et du coup, ils utilisent des articles très flous de la législation sur la morale publique pour attaquer systématiquement, faire du harcèlement à la petite semaine, un peu mesquin, à l'encontre des assos LGBT. Il faut savoir que des associations d'Ankara et d'Istanbul ont déjà gagné devant la justice assez récemment. Un procès vient de se terminer pour une association d'Istanbul, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont déjà gagné contre devant les tribunaux qui ont trouvé qu'il n'y avait rien à redire à ces associations communautaires. Et cela dit, les institutions locales comme la mairie d'Izmir ou des lobbies homophobes nationaux, etc., saisissent tous les prétextes pour essayer de les incriminer, en sachant que ils vont un peu en loose day parce que vis-à-vis des négociations d'adhésion à l'Union européenne, etc., ça le fait pas d'être ouvertement homophobe. Le procès aura lieu en février. Le jugement est entendu en février, le 9 février, si je dis pas de bêtises, toujours. En général, la répression est d'autant plus forte que les mouvements nationaux de soutien sont forts en Turquie. Donc souvent, les gens, ils serrent les dents face à la répression en solitaire, au niveau national. Donc ça peut être bien, par contre, au niveau international, si des camarades d'associations du même type ou autres, d'ailleurs, ils veulent essayer d'organiser une campagne de soutien, une campagne de pression sur l'État turc, sur la municipalité d'Izmir, ou tout simplement manifester leur solidarité pour soutenir les camarades ici. Et ça leur ferait très plaisir, je pense, puisqu'ils se sentent un petit peu isolés, et puis ils ont un peu de lassitude pour toujours les mêmes démarches juridiques qu'ils se prennent dans les dents. Du coup, il y a un contact à faire suivre. Ça, c'est pour toute personne qui voudrait prendre contact pour organiser du soutien à l'égard des camarades d'Izmir. Puis, la petite précision qu'on peut faire, c'est que la municipalité d'Izmir, c'est pas une municipalité islamiste comme on appelle en Europe, mais disons l'AKP, les islamistes modérés au gouvernement turc. C'est une municipalité de la gauche conservatrice nationaliste turque, le CHP, un des partis kémalistes pur et dur, qui se prétendent de gauche. Après, ça a l'air facile parce que vu les positions qu'ils tiennent, ça a l'air d'engager à rien d'être de gauche. Du coup, c'est des gens qui, notamment, sont extrêmement anti-religieux et se prétendent de la laïcité, etc., mais qui se font les chantres de la morale publique et des structures de la famille. Les soi-disant progressistes au Parlement, etc., mais qui font la misère aux assos LGBT et qui sont extrêmement rétrogrades dans leur politique locale ici.
Voilà. Alors là, le contact dont il parlait, je vais le dire à l'antenne parce que c'était pas audible quand il le disait. Donc c'est pour prendre contact avec eux, c'est Dernek, D-E-R-N, comme Nathalie K, @siapmb, donc ça s'écrit S-I-Y-A-H-P comme Paul E, M comme Marie et B comme Barbara et E point org. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux, je pense que ça leur fera très plaisir.
Ok, on continue dans les infos internationales. Changer de sexe en Thaïlande va devenir moins facile. Donc les trans MTF désirant une vaginoplastie vont souvent se faire opérer en Thaïlande car il y a des chirurgiens compétents qui se spécialisent dans ce domaine et qui ont donc l'habitude de faire du bon travail. Mais un durcissement de la loi va compliquer le processus. Maintenant, les trans doivent respecter plusieurs obligations avant de pouvoir subir l'opération afin de montrer qu'elles sont psychologiquement prêtes. Elles doivent ainsi prouver qu'elles ont vécu comme une femme depuis au moins un an, recevoir un traitement hormonal et obtenir l'approbation de deux psychiatres. Pour le chirurgien Teb Vaduzit, désolé pour l'accent, la nouvelle législation ne fait que créer d'inutiles obstacles. Il a déjà pratiqué 500 opérations et reçoit 2 ou 3 patientes par semaine, la moitié d'entre elles étant des étrangères. Je pense qu'un chirurgien peut se faire une idée de qui est transsexuel. Chacun d'elles souhaite depuis longtemps avoir recours à la chirurgie et je ne pense pas qu'un psychiatre puisse leur apporter un plus, estime le chirurgien. Et oui, c'est un peu toujours pareil, ils légifèrent pour cadrer le maximum de trans dans des parcours officiels et psychiatriques pour un bon lavage de cerveau. On ne se considère pas comme malade, on va se tuer à leur répéter.
Une autre info internationale, c'est la fausse annonce en Suède. Donc la Suède a déclaré qu'elle va lever l'interdiction de don de sang pour les homosexuels le 1er mars 2010. Donc en apparence, on se dit que c'est pas mal et que la France pourrait en faire autant. Sauf qu'attention, quand on lit plus en détail, les conditions requises, c'est que le donneur n'ait pas eu de rapport sexuel avec un autre homme durant l'année précédente. Donc, franchement, ça limite énormément le nombre d'homos, là, du coup, il parle d'hommes de PD, de la communauté LGBT en général, quoi.
Tu peux donner ton sang si t'es PD, mais il faut que tu sois abstinent.
Voilà.
C'est ça.
Il était content.
Alors, on continue sur les infos nationales. SIDA Info Service crée le premier centre de santé sexuelle à Paris. Donc, SIDA Info Service a inauguré à Paris le premier centre dédié à la santé sexuelle, au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. Baptisé le 190, ce centre veut notamment s'adresser à toutes les personnes dont la sexualité peut constituer un obstacle à l'entrée dans des centres de santé classiques, et en particulier aux homosexuels. Il réunit sous le même toit sexualité, prévention, dépistage et soins. Son originalité réside dans le fait que les personnes pourront à la fois s'y faire dépister, s'y faire soigner et se faire suivre si elles sont séropositives. Donc ce centre est situé au 190 boulevard de Charonne, dans le 20e arrondissement de Paris.
Et on reviendra dans 2 semaines sur les stratégies de réduction des risques sexuels chez les gays. En fait, il y a Roselyne Bachelot qui a lancé un plan. Elle a fait vraiment une grande annonce, le ministère de la Santé, là. Et sauf que ACT UP est sceptique par rapport à ce truc-là, et c'est assez compliqué, donc on en reparlera dans 2 semaines pour plus développer. Donc là, on va parler... ça s'appelle Écrire pour soutenir. Et en fait, on veut parler d'une trans... qui s'appelle Chloé et qui est détenue à Caen et qui a tenté de s'opérer elle-même. Donc elle est désormais hospitalisée à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes et elle a besoin d'un soutien urgent, et elle aimerait correspondre avec d'autres trans ou une association de trans pour se sentir moins seule. Donc il faut vraiment pas hésiter à lui écrire, et aussi quand on lui écrit, à bien penser à mettre un timbre et une enveloppe dans nos courriers pour qu'elle puisse nous répondre. Donc son adresse, c'est Chloé Villain, V-I-L-A-I-N, 945-382. Donc, c'est la chambre 219, c'est EPSNF, premier allié des TUIA, 92-260, Fresnes. Donc, il faut bien rappeler que la condition de détention, c'est dur, globalement. Mais pour une trans, elle est encore plus, puisque l'institution pénitentiaire refuse souvent de reconnaître une personne trans, du coup de la nommer, et de continuer les traitements hormonaux dont elle a besoin. Donc ça fait aussi souvent des trucs psychologiques assez rudes. Et aussi, une trans est souvent mise en isolement, et l'acceptation par les autres détenus est très difficile. Donc plusieurs assos veulent ou tentent d'agir face à la situation des trans incarcérés dans des conditions inadmissibles, comme Banc Public, OIP, Aide, SIDAction et ACT UP. Et donc là, vous pouvez contacter correspondre avec une femme d'ACT UP qui essaye de se bouger en ce moment là-dessus. Et le mail, c'est prison@actupparis.org si vous voulez faire plus des actions de soutien.
Ouais, ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, quand on est trans et qu'on n'a pas son changement d'état civil, même si on a les opérations de fait et qu'on n'a pas le changement d'état civil, pour une trans MTF, ça veut dire être détenu dans une prison pour hommes. Et pour un trans FTM, ça veut dire être détenu dans une prison pour femmes.
Et maintenant, on va écouter, la semaine dernière, on était à Grenoble, on était les envoyés spéciales à Grenoble de Canu pour la marche des femmes et des trans.
Une fois qu'on est dedans, en fait, on se rend compte de pourquoi on fait ça. On voit les réactions des gens autour de nous. On voit à quel point y a plein de femmes déjà qui sont solidaires, quoi, qui disent oh, ouais, c'est super. Ouais. Bon, elles viennent pas forcément, mais. Et puis il y a ce truc aussi de chez les guerres, ça suscite vraiment des réactions hyper fortes, soit de solidarité, soit carrément d'hostilité, quoi. Ouais. Ou d'incompréhension aussi, quoi. On se dit qu'au moins notre passage va. Poser des questions aux gens, enfin, ils vont peut-être en parler entre eux après. Ouais. On a vu plein de gars parler avec les flics. Il devait se dire, mais qu'est-ce qu'elles font? Mais vous les laissez faire?
Bah, c'est pas normal. C'est pas normal une femme dans la rue la nuit. Alors, sans.
Là, c'est carrément.
Hein, parce que ce soit pas normal, ça. Il y a toujours un côté un peu jubilatoire de faire quelque chose, finalement. Bah, je regrette pas, quoi.
Moi, je voudrais que toutes les filles connaissent ça, quoi. Ce moment d'émulation collective et se rendre compte de comment on est forte à plein. Et ça, c'est vraiment puissant, quoi. Moi, je trouve que ça devrait être obligatoire. De quand t'es petite, tu fais au moins deux ou trois manifs entre meufs.
Et solidaire et en colère, nous sommes forts et fiers. Et solidaire et en colère, nous sommes forts et fiers. Et solidaire et en colère, nous sommes forts et fiers. Et solidaire et en colère, nous sommes forts et fiers. Et solidaire et en colère, nous sommes forts et fiers.
Voilà, c'était un aperçu de la manif de Grenoble. On fera un montage plus long très bientôt. Il y avait plus de 150 personnes. On entend 100 dans le reportage. En fait, il y avait plus de 150 femmes, Gwyn et trans dans cette manif. Et c'était vraiment fort, ce moment.
Et là, je vais vous parler d'un nouveau livre qui est sorti, qui s'appelle Bared Mistajil. Désolée pour l'accent arabe. Donc ça veut dire courrier urgent en arabe. En fait, ce livre est un recueil de témoignages de 41 lesbiennes bisexuelles ou transsexuelles racontant leur vie dans une société conservatrice. Donc ce livre d'un collectif de féministes évoque l'existence de ces femmes, donc pardon, j'ai pas dit, c'est au Liban, prises avec leur sexualité, la religion omniprésente au Liban et la famille et l'émigration. En fait, il a fallu 3 ans à Mehem. C'est une organisation apportant son soutien aux gays, lesbiennes et transsexuels du Liban pour compiler ces témoignages qui ont connu du succès. Le livre, publié à quelques centaines d'exemplaires, a dû être réimprimé. Donc Mehem, qui compte aujourd'hui plus de 300 membres, est moins connu que sa grande sœur LM, la seule association de défense des gays, lesbiennes et transsexuels légale dans le monde arabe. Car au Liban, l'article 534 du code pénal punit les relations sexuelles non naturelles d'un an d'emprisonnement maximum. Malgré les interdits, LM et MM publient magazines, livres et articles en ligne ou offrent à leurs membres des lieux de rencontre dans la capitale. Elles organisent aussi la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie et organisent des rassemblements de soutien ponctuellement. Donc voilà, et en fait, ce livre, on ne l'a pas lu. Donc là, je vais vous lire, c'est Shent, une militante qui dit « Cela a donné un nouveau sens à la solidarité entre homosexuels, à la compréhension et au militantisme. Nous avons réalisé que nos histoires devaient être racontées. En un sens, ces histoires sont aussi sorties du placard, donc grâce à leur lutte et à ce livre. » Donc le livre, il n'est pas trouvable en français, il est en anglais et va être, à partir de juin 2010, il va sortir aussi en arabe. Et on peut le trouver au Liban, mais on peut aussi l'acheter sur le net. Donc le site c'est http://, donc Bared Mistajil, aïe aïe aïe, B-A-R-2-E-D comme Damien, M comme Marie, I-S-T-A. 3jil.com.
On passe maintenant à la rubrique On en rigole et j'ai...
Ah, on en a un cette fois encore.
Et oui, et je dois faire une grosse déclaration, c'est que nous n'irons pas au paradis. Oh. Et oui. Et donc c'est un cardinal qui a fait cette déclaration. Il a dit « Les transsexuels et les homosexuels n'entreront jamais au royaume des cieux. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais saint Paul. Et oui, ça a été déclaré par le cardinal Javier Lozano Barragán, un ancien haut responsable du Vatican. Donc, il a cité un passage de la lettre de saint Paul aux Romains qui parle de passions déshonorantes et des hommes qui font avec les hommes des choses infâmes. On ne naît pas homosexuel, mais on le devient.
Ça, il a raison.
Ouais, pour le coup, là, on est d'accord. Mais ensuite, pour différentes raisons, des questions d'éducation, parce qu'on n'a pas développé sa propre identité au cours de l'adolescence, peut-être qu'ils ne sont pas coupables, mais agir contre la nature et la dignité du corps est une offense à Dieu, a-t-il ajouté. Bon voilà, merci monsieur le curé de nous éclairer de vos saintes paroles. En attendant, on comptait pas y aller. Hein. On lance le reportage.
Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Reportage.
Voilà, alors nos deux amis ont eu le temps d'arriver pendant les infos et là on va parler de la peinture faite par des Gouines, donc en parlant du mythe de Diane et Callisto en partant de là et en parlant aussi des réalités du 19e siècle et 20e siècle en peinture et peinture de Gouines.
Voilà, alors je voulais faire une petite introduction d'abord pour vous expliquer quels ont été nos choix pour parler des peintures faites par les Gouines. Et du coup, juste je voudrais signaler que, enfin c'est moi qui pense ça, que l'histoire de l'art est une pure escroquerie de l'homme blanc capitaliste. Et on nous a renseigné, dans une lecture binaire et hétérosexiste, à catégorifier la peinture et la sculpture. Donc, c'est-à-dire que les historiens et les peintres, hommes, dans leurs recherches, ont décidé de définir la peinture comme un territoire, une surface à pénétrer, donc quelque chose, une quête quoi, quelque chose à conquérir. Donc la peinture, du coup, elle est vue comme féminine. Et la sculpture, non mais ça c'est... Et la sculpture comme un volume phallique, une forme pleine. Donc les âmes se voient comme quelque chose de plein. Et enfin voilà, c'est des images qui vont venir souvent et qui vont souvent être représentées dans l'histoire de la peinture.
Construire de l'idéologie aussi.
Oui. Et donc en fait, les personnages, les anecdotes qu'on va citer, elles ont une connotation émancipateur, mais le problème c'est que c'est l'héritage qu'on a de ça, c'est une culture de l'aristocratie et de la bourgeoisie, donc en fait... Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites et faites pour les classes populaires. Donc c'est l'élite qui blanche qui parle. Et c'est aussi une culture parisienne. Mais bon, c'est intéressant parce que ça nous permet de reconnaître le combat des femmes. Et puis surtout, là, on va parler des Gouines, qui tentent d'être représentées dans la cité des hommes. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter.
Ah.
Je vais parler du mythe de Diane et de Callisto, que j'ai tiré des métamorphoses d'Ovide. Et c'est à partir de la mythologie romaine, mais moi je vais faire un tout petit déplacement, je vais raconter de mon point de vue en fait. Je vais pas le raconter du point de vue d'Ovide. Alors, Diane, c'était la nymphe préférée de Callisto. Non, c'est pardon. C'est Callisto qui est la nymphe préférée de Diane. Et un jour, elle est en train de prendre, de faire une sieste au bord d'un arbre. Et Jupiter, qui l'aperçoit, décide tout bonnement de la violer, parce qu'il comprend pas pourquoi Callisto présente vœux de chasteté à Diane. Et pourquoi il n'a pas affaire dans cette relation, et pourquoi il n'intervient pas. Enfin, il y a plein de raisons, mais du coup, il décide de prendre les apparences de Diane pour la séduire. Et ça marche, parce que Callisto, elle tombe dans le piège. Et à un moment, Diane s'aperçoit, en regardant Callisto prendre son bain, qu'elle est enceinte. Et là, c'est le drame. Et là, Diane, elle décide de la bannir de sa forêt, de son domaine. Et du coup, elle s'en va et elle se fait pourchasser par Janon. Oui, c'est ça, Janon, qui est Junon, pardon, excusez-moi, qui est l'épouse légitime de Jupiter. Et elle la transforme en ours. Et puis, bon, ben, Jupiter, touché par son destin, et dans sa grande compassion, décide en fait de ne pas la laisser en ours, mais de la transformer en étoile, et de l'envoyer dans les ciels, dans le ciel. Et du coup, voilà, quand on regardera la petite ours et le grand ours, c'est en fait le fils et Callisto.
Jupiter garde le beau rôle quand même.
Oui, Jupiter. Jupiter, c'est Zeus en fait dans la mythologie grecque. Bon, c'est des... C'est pour dire. Donc, il y a des tableaux qui... Ah, oui, bon...
C'était pour le mythe.
Voilà. Le petit bruit dans la forêt, parce que, bon... Je voudrais juste parler d'un tableau, enfin, plusieurs tableaux, mais non celui-là, qui représente Callisto avec Jupiter. Mais en fait, c'est pas vraiment Jupiter, c'est Diane. Et il y a plein de symboles qui montrent que tout autour de ces deux personnages, qu'en fait il s'agit d'une tromperie. Et en fait, ce tableau, il fait scandale, pas parce qu'il prend la forme, pas parce qu'on y a l'ambiguïté du viol, mais parce que en fait il y a le travestissement. C'est-à-dire que Jupiter, pour séduire Callisto, il est en Diane. Donc on voit là deux femmes qui ont une relation, enfin qui éprouvent du désir, mais en fait c'est sous couvert du travestissement. Et il faut savoir que le travestissement était puni par la mort, quoi, brûlé au bûcher. Et je voulais rajouter juste un truc, c'était que à ce moment-là, à cette période-là du 16e siècle, en fait, les femmes, elles arrivaient à tromper l'Église, à se marier, et du coup, il y en avait une qui était déguisée en homme. Et l'Église, pour chasser ces femmes-là, celles qui étaient qui prenaient l'apparence une apparence masculine, et elles étaient brûlées vives aussi.
C'est un peu des sorcières.
Ouais. Voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à dire.
À l'époque, on les nommait les tribades. C'est un mot assez péjoratif. C'est un mot assez péjoratif qui est tiré de qui vient du frottement. C'est ça.
Hein, ouais.
Les tribades, c'est celles qui se frottent. Donc ça, c'est voilà, c'est un mot qui a été créé par un gars à la suite de réinterprétation d'œuvres. Voilà. Et moi, je voulais juste noter qu'à cette époque, déjà, par rapport à ce fameux travestissement, c'était interprété par la gente masculine comme un manque. C'est-à-dire, si cette femme se travestit de cette manière, c'est parce qu'il y a un manque. Nanana, donc... Voilà. Et puis une petite. Moi, j'ai regardé un peu des réflexions qu'avait eu Marie Jobonnet sur tout ça. Et elle souligne le fait que la culotte, déjà à cette époque, était juste une forme de protection pour les femmes. Et voilà. Il y avait à cette époque, une grosse négation de l'individualité vis-à-vis pour la femme. Puis voilà, puis déjà à cette époque, l'ambivalence sexuelle, ben, ça faisait référence au désordre social et puis il fallait s'en occuper. Voilà.
Et je voulais juste rajouter sur cette petite anecdote, que pour punir les Gouines, l'Église était obligée de leur faire avouer en fait la mascarade. Et tant qu'il n'y avait pas d'aveu, en fait, il n'y avait pas de procès. Et c'est pour ça qu'il y a quelques-unes qu'on puisse en sortir, en fait. Et
tant mieux.
Mais du coup, l'Église n'en reste pas là et elle reformule les contrats de mariage en mettant bien des critères pour ce qui est illicite et ce qui est licite. Et du coup, là, ça se resserre. Mais bizarrement, en fait, ça, c'est les classes populaires qui subissent cette répression. Et l'aristocratie s'en sort bien parce qu'on est en plein essor, ils tripent libertinage, alors du coup le couple de femmes, il est plus vu pareil, mais il est vu comme un espèce d'amusement pour les hommes, c'est-à-dire que si deux femmes sont ensemble, c'est par rapport à leur regard à eux, c'est pour leur désir en fait. Et c'est montré comme ça puisque les œuvres d'art statuent ça, c'est-à-dire que plein de symboles, quand il y a deux femmes représentées, ils mettent plein de symboles pour dire qu'il y a une présence phallique, quoi.
C'est pour eux en fait.
Oui, c'est pour eux. Et la peinture me le montre que c'est pour eux. Enfin, il y a plein de, il y a une iconographie hyper puissante, quoi.
Et puis ça ne pourrait pas être juste de la peinture faite pour montrer deux lesbiennes qui prennent du plaisir ensemble.
Non,
et...
non, c'est pas possible ça. c'est pas dans les mœurs.
Quoi. Ça, c'est pas. Il n'y a, mais... a pas cette case là, quoi.
Non. Et je voudrais faire une aussi une petite parenthèse. Enfin, c'est quand même lié parce que bon, il y a. Je voulais parler de Sappho. Et alors, pendant dans cette période-là du XVIe siècle, avec cette répression pour les Gouines, eh ben, il y a quand même un autre problème. Enfin, chez les humanistes, donc chez les littéraires et tout ça, il y a, ils ont du mal à croire que cela puisse exister sans que l'homme soit absent de cet amour. Et du coup, Sappho, qui est représentante quand même, qui est une poète ouais. lesbienne, donc comme voilà. En fait, il décide de réécrire l'histoire de Sappho. Donc tout bonnement, en fait, Sappho est hétérosexuelle et elle meurt d'une fin tragique parce que en fait, elle a le cœur brisé par un jeune homme qui voulait pas d'elle en fait.
Ouais, ça la met dans le statut de vieille folle.
Voilà. Donc c'est par folie qu'elle se jette d'une falaise. Et aussi, on a falsifié des traductions en remplaçant dans ses poèmes le elle par le il. Surtout dans les passages un petit peu qui suggèrent.
Mais ça s'est beaucoup fait hein, quand même dans des chansons populaires pour les. Ils mettaient des chansons populaires même et ils remplaçaient par Marie, vous voyez, pour que ça soit une chanson à la gloire de Marie. Ils ont fait plein de trucs comme ça ouais. en fait qui sont juste hallucinants quoi.
Ils ont écrit
l'histoire.
Voilà, ils ont écrit l'histoire et tout bonnement pour s'imposer comme pouvoir. Et qui est que ce soit enfin le génie masculin, le génie peintre, c'est pas un mythe au hasard quoi. Je veux dire c'est pas un hasard qui est que les femmes et les gouines sont très peu représentées dans l'art. Donc même si ça c'est le milieu aristocratique qui bénéficie de cet art là de cette représentation, ben quand même je veux dire elle représente juste les hommes, leur pouvoir quoi. Et donc, du coup, pour Sappho, il faudra beaucoup de. Même si des preuves historiques sont là, et ben, on a du mal à reconnaître son identité, en fait.
C'est vraiment dû à beaucoup d'interprétations qu'il y a eu, notamment de la part de Martial, qui a beaucoup. Donc c'est un vieil écrivain.
Hein. Ah, je me demandais qui c'était.
pareil, Renaissance. Qui a beaucoup joué sur la grammaire, les règles, le bien penser, le bien parler pour tirer des conclusions de l'œuvre de Sappho. Du coup, ça biaise tout. C'est-à-dire que même si à l'époque, c'est la religion qui dicte un peu le bien faire, le bien penser, comme il n'y a pas d'écrit clair, c'est pour la question des femmes et leur punition, les règles à respecter, tout ça passe uniquement par le bon usage. Et du coup, le bon usage qui est défini par les hommes, ben c'est vraiment large et puis voilà, beaucoup de femmes en ont pâti.
Je voudrais juste dire qu'aussi la Renaissance, c'était pas qu'une période de répression pour les femmes et les gouines. Il y a aussi une émergence du pouvoir féminin, mais là, c'est dans l'aristocratie. Donc, je voulais parler d'une figure qui était assez importante, Jeanne de Poitiers, qui se réapproprie le symbole de Jeanne, avec comme emblème trois lunes qui se croisent par leur milieu. Parce qu'il faut savoir que Jeanne, c'est la vierge chasseresse qui échappe aux lois des hommes. Elle est la fille de Latone et de Jupiter, frère d'Apollon qui naît sous ses yeux et qui, voyant la souffrance de sa mère, elle demande à son père de se consacrer à la virginité perpétuelle. Donc elle ne veut pas être une mère. Voilà, il faut le dire. Je peux la comprendre. Bon bref, alors c'est la dame aux fauves. Et elle est la maîtresse du monde sauvage. Armée de son arc et de ses flèches, elle règne sur les eaux, les lois, les bois, pardon. Enfin les lois, puisque c'est les lois, c'est les hommes, ça. C'est les... Et les animaux. C'est la déesse lunaire. Elle symbolise les pouvoirs de la nuit et de la nature par opposition à Apollon. Et l'homme de la cité Apollon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le plein, le vide, les hommes, c'est la chaleur, tout ça. Voilà, toujours dans cette lecture binaire qu'on va hériter. Et elle vit librement avec 60 nymphes dans la forêt, loin de la violence phallique. Et là, j'ai une nouvelle histoire. Toute petite anecdote. Un jour, Actéon, qui est un gars quelconque, je ne sais pas ce qu'il représente dans la mythologie, bref, la regarde prendre son bain et pour se venger, elle décide de le transformer en cerf pour le donner à ses chiens. Et voilà. Bonne vengeance, je trouve. Jeanne de Poitiers est une femme... pour en revenir à Jeanne de Poitiers, là, 16e siècle, plus dans le mythe. C'est une dame influente de la cour de Fontainebleau qui prône liberté sexuelle et fait de Jeanne l'emblème du pouvoir féminin. D'ailleurs, elle le rend visible en accrochant ses initiales, par exemple, sur la façade du Louvre, je crois, et du Palais Royal. Et ça, le roi, il supporte pas, et puis les hommes qui vont, ils ne supportent pas. Donc, malgré que l'art soit au service de l'émancipation des femmes, lorsque des représentations de couples lesbiennes sont regardées, c'est quand même toujours au travers de l'homme qui alimente son imaginaire par l'éros lesbien. Et je voudrais faire un petit rappel aussi, c'est que d'ailleurs l'homosexualité masculine, elle est très peu commentée. Le symbole que Jeanne avait mis, Jeanne de Poitiers a mis dans Jeanne, qui est d'ailleurs Artémis dans la mythologie grecque, est détournée par son contraire, c'est-à-dire que elle devient l'emblème de la fécondité.
Bravo.
Et voilà, j'ai fini mes petites anecdotes.
Mon Dieu. Quand même. On fait une petite pause musicale, non ?
Oui. Ouais,
parfait. Eh bien, la Môme Catch-Catch de Frère.
Des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça, c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui qui vienne ici, il sera servi. C'est moi, la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds nickelés. J'ai les pieds au mur comme un échalas, le grand écart et je crache à 15 pas. Je vois du gros qui touche, c'est moi la môme cache-cache. Un jour dans une bagarre avec deux affranchis dans le quartier de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital. Les flics sont arrivés naturellement, bien après coup, c'est plus prudent. Ton nom me dit le commissaire au quart, il y a que toi, pour pas le savoir. C'est moi le môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués. J'fais les pieds au mur comme un échalas, le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui touche, c'est moi la môme cache-cache. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués. J'fais les pieds au mur comme un échalas, le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui te chote, c'est moi la bombe cache-cache.
Alors, donc on reprend.
Donc, on est toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et dans l'émission On n'est pas des cadeaux, avec le thème sur la peinture faite par des Gouines.
Voilà, et moi je voulais faire une petite parenthèse au sujet d'une personne qui est assez connue, qui s'appelait Marie-Antoinette. Et je voulais juste rappeler qu'elle faisait partie quand même d'un bon gros réseau de nanas qui aimaient bien être ensemble, que ce soit pour discuter, faire la fête, réfléchir ou voir plein d'autres choses. Voilà, et on oublie souvent un peu ça dans son histoire. Voilà, je voulais le dire.
Elle n'a pas une liaison aussi avec je ne sais plus qui ?
Il y avait pas mal de monde en fait autour d'elle.
Il
y avait...
Il semble qu'elle a plusieurs relations affichées avec des filles et tout ça et tout ça.
Très certainement. Moi, je sais qu'il y a une personne, Olympe de Gouges, qui était vraiment près d'elle.
Ouais, c'était avec elle, je crois, où elles ont une relation pendant longtemps, où il y avait Louis XIV, ou le mari d'Olympe de Gouges, je me souviens pas trop, mais qui avait fait des méga crises de jalousie par rapport à ça, en ordonnant qu'elle ne se voie plus. Et en faisant tout un patatras auprès du roi pour qu'elles arrêtent de se fréquenter, parce que c'était vraiment insupportable de se faire tromper de cette manière.
Tout à fait.
Ouh, c'est chaud. Vu l'histoire, on apprend de ces trucs. Bon, du coup, en parlant d'histoire, je voudrais faire un petit rappel pour pour qu'on en vienne à parler des peintres lesbiennes. Et du coup, je voudrais vous rappeler ce qu'est être une femme artiste sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire ce que j'appelle l'Ancien Régime, c'est 16e, 18e. Alors, elles peuvent pratiquer la peinture jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Et elles n'ont pas du tout les mêmes privilèges que les hommes, elles ne sont pas beaucoup non plus. Et puis là, évidemment, c'est toujours l'aristocratie dont on parle, quoi. Je veux dire, ce n'est pas accessible non plus de pouvoir peindre. Elles sont notamment privées de certains cours comme l'histoire de la peinture, le nu et de faire des voyages. Et elles ne peuvent pas enseigner, évidemment. Et le nu leur est interdit. Alors c'est pour ça aussi qu'elles n'ont pas pu encore se représenter elles-mêmes et parler de leur corps et parler de leur sexualité. Mais on va en venir parce que c'est au 19e que ça va arriver tout ça. Donc fin 17e, début 18e, nouveau barrage pour les femmes artistes. Mais fin 19e, il y a des écoles privées les femmes et les Gouines s'organisent ensemble, formant l'Union des femmes peintres et sculptrices. Au 19e, j'ai un petit rappel, pour vous dire qu'on médicalise les relations amoureuses entre personnes du même sexe, qui est un délit aussi, en inventant le terme d'homosexualité.
Voilà, ça c'est Monsieur Diderot qui a mis ça en place, les termes d'homosexualité ou d'hétérosexualité. Et du coup, là, on peut voir que la fascination un peu du mystère, on va dire, ça se déplace du religieux à la nature avec l'entrée des sciences dans l'époque des philosophies des Lumières, qu'apporte, ok, d'un côté, des nouvelles perspectives à l'homme par rapport à une espèce de prise de conscience de son individualité. Mais on va voir que ça va être lent. Moi, j'ai relevé aussi une parole de Fourier qui a été censurée à cette époque-là. Du coup, c'était un penseur de l'époque. Et il disait qu'il ne pourrait pas y avoir de nouveau monde amoureux sans nouveau monde politique. Voilà.
Excusez-moi, j'ai une absence. Je reprends. Alors, ce qu'a produit dans mon milieu de l'aristocratie le libertinage, c'est quelques tolérances. Et on se retrouve aussi avec une explosion en littérature saphique. Et puis le travestissement est toléré aussi. Et
Je suis perdue, tu parles au 19e là ou au 18e?
Bon, puis ça, c'est l'héritage en fait, je parle de l'héritage.
Ah d'accord, l'héritage, ok.
Qui arrive avec... Donc on arrive au XXe siècle, au début du XXe, et enfin les Gouines parlent d'elles-mêmes et se visibilisent.
Tout à fait. Petit hommage à Georges Sand qui a écrit Lélia vers 1833, je crois, où elle va quand même infliger une belle grosse violence symbolique à la culture patriarcale, parce que dans Lélia, qui est un roman qui parle notamment de désir lesbien, et d'aventure lesbienne, elle n'utilisera jamais d'étiquette pour identifier la transgression. Et ça a pas mal perturbé à l'époque,
Voilà, George Sand, l'ami de Marie Dorval.
Et du coup, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis il y a des peintres Gwyn
Alors, j'avais envie... Il faut expliquer aussi le contexte, c'est que du coup, on se retrouve aussi à... dans l'entre-deux-guerres, quoi, et du coup les femmes, on sait que là, elles prennent un pouvoir dans le milieu du travail et elles s'organisent ensemble, elles commencent à porter le pantalon, donc l'image de la garçonne arrive. Et elles commencent à se montrer, à se visibiliser aussi dans leur sexualité et elles montrent l'intensité de leur relation à travers la littérature. Et à travers la peinture. Donc pour ça, j'ai envie de présenter une artiste dont j'aime bien les images. C'est Tamara de Lempicka. Bon, je vais pas faire une histoire, je vais pas faire sa bibliographie, tout ça. J'ai juste envie de parler d'un tableau qui me touche. C'est celle des deux amis, qui a été peint en 1923. Alors on voit un couple de femmes, une amante qui tient... pose sa main sur la cuisse de son amante. Celle-ci, elle est allongée. Et on sent que son regard est porté par l'extase, quoi. On sent qu'il y a eu un orgasme. Je veux dire, c'est clair. Donc on sent qu'il s'est passé quelque chose entre ces deux femmes. Et on peut pas dire que c'est des amis, quoi. Je veux dire, là, c'est plus possible. Et derrière elle se trouve la cité. Et donc c'est la cité des hommes qui est représentée et bon son style c'est proche du cubisme sauf qu'elle déstructure pas du tout les membres comme le ferait Picasso ou Braque ou tous ces peintres là qu'on connaît un peu là. Elle embellit. Elle reprend ce sont des formes qui sont enfin c'est des courbes, c'est hyper harmonieux, bien maîtrisé géométriquement l'espace dans ces toiles. Et on sent bien qu'il n'y a plus cette présence phallique qu'il y avait dans les autres siècles d'avant. On sent qu'il y a on se dégage de cette pression. Il n'y a plus du tout de référence au masculin. D'ailleurs, elles ne regardent pas du tout le spectateur, quoi. Elles sont libérées. On sent bien qu'il y a on est devant elles et elles sont devant nous, mais elles ne nous calculent pas. Et derrière, c'est la cité des hommes avec des lignes strictes, dures, brisées. Et elles n'en font pas partie, elles sont dans leur univers. Et c'est bému.
Ouais, tu le rends super bien d'une manière audio.
Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose? Non.
Bah, on peut passer à une petite chanson avant de faire un autre portrait.
Oui.
Alors, ça va être une des chansons chantées par Marlène Dietrich dans les années 1930.
Marlène Dietrich, elle a eu pas mal de relations, genre avec Billie Holiday et Louise Brooks aussi. Elle est vraiment trop canon en assumant ses relations. Voilà.
Special girlfriend meets a special girlfriend for a little shopping, shop to shop, they're hopping, shopping without stopping. There's no greater pleasure than to shop together. And the special girlfriend tells the special girlfriend, you're my special girlfriend. Oh, you're my favorite girlfriend, my sweet and pretty girlfriend. I trust you, my girlfriend, to keep our secrets, girlfriend. When the special girlfriend meets a special girlfriend, with great tenderness she'll tell her friend she's special. Oh my special girlfriend.
So what does my special girlfriend say about that?
Well, I can only tell you one thing. If I didn't have you, we get on so well.
We get on so awfully well.
How well we get on together.
It's almost unbearable how well we get on together.
Yeah.
There's only one other person I get on so well with my sweet little man.
Yes, with your sweet little man.
Oh, my man, what a
her boyfriend had her in a whirl. That romance is over, she's dropped him for a girl.
Well, you sweet man is a little pushy.
Oh, yes?
Yes, absolutely.
Why?
Well, I'm fine.
Well, how come?
Well, he does these things.
Oh, I don't approve of that at all.
Well, well. Oh, come on, let's kiss and make up.
Just last week her boyfriend had her in a whirl. That romance is over, she's dropped him for a girl. When the special girlfriend meets a special girlfriend, with great tenderness she'll tell her friend she's special. Oh my special girlfriend.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette peintre?
Sur Tamara Lempicka, ben moi je voulais proposer aux auditeurs et aux auditrices que ça valait le coup d'aller voir sur internet un peu les images qu'il y avait faites par elle. C'est assez intéressant, il y a beaucoup de portraits, toujours avec le même coup de crayon très comme direct, avec des courbes très prononcées, les couleurs qui... moi, j'ai un peu cette impression qu'elles superposent, qu'elles sont vraiment fortes les unes les autres. Mmh. Voilà, ça vaut le coup d'aller voir un peu comme, ce qu'elle fait.
Je veux rajouter qu'elle peint sur des toiles immenses, ce qui donne beaucoup plus de présence déjà à ce couple et aussi à des portraits de femmes. Elle peint les femmes avec... dans une iconographie avec des objets modernes, c'est-à-dire que ça va être avec des femmes dans des voitures. Donc c'est des immenses portraits, c'est 3 mètres sur je ne sais plus combien, donc c'est hyper impressionnant. Et elle utilise des tons bleus, verts, pastels, c'est toute une gamme de couleurs froides, mais qui sont, je sais pas, faut voir quoi, faut aller voir. Et elle peut se le permettre de faire ce genre de peinture, de visibiliser les lesbiennes et puis des femmes qui deviennent autonomes. Mais c'est parce qu'elle est aussi mariée à un baron, un homme très riche qui vient de l'aristocratie. Donc pour elle, il n'y a pas souci de l'argent. Par contre, c'est pas le cas de plein de peintres et plein de peintres lesbiennes aussi qui se retrouvent très vite dans la difficulté et qui ont la peur de pas avoir cette place. Et dans la cité, quoi. En fait, c'est ça, parce que de toute manière.
J'ai une question. Est-ce qu'il y a dans ce courant-là, entre les deux guerres, des femmes peintres qui se revendiquaient Gwyn et sans avoir de relation avec. Être mariées avec des hommes?
Non. Bah, j'en connais pas. Et puis même dans le livre très détaillé de Marie-Jeanne Bonnet sur le couple. D'amis, j'ai pas trouvé, non. Qui se revendiquait, si, il y a peut-être. Mais si, on a en fait Nathalie, l'amante de Roman Brooks, c'est le prochain portrait que je voulais faire qui s'appelle Nathalie Clifford Barnett.
C'est une écrivaine, elle.
C'est aussi un peintre.
Okay. Enfin, une peintre. Okay.
Mais du coup, c'est des femmes qui peuvent se le permettre de se visibiliser comme ça.
Ouais,
c'est pas n'importe qui, quoi, parce que sinon, c'est galère. Quoi.
Mais sachant qu'en plus, là, t'as souligné qu'elle était comme privilégiée, en quelque sorte, mais son art qui tendait vraiment vers le cubisme, c'est pas pour ça qu'il a été. Qu'il faisait partie de tout. Qui a été considéré dans toute cette mouvance-là. Lui, il était considéré comme un art décoratif, ce qu'elle faisait.
Ouais.
Donc, quand même, c'est à noter, parce que, ok, elle avait des privilèges, mais c'est pas pour ça que.
Ouais, quand
qu'elle a pu être reconnue
dans le mouvement,
dans son
quand
travail.
Quand on apprend l'histoire de la peinture, juste on apprend que de la peinture de mecs, alors avec ouais. Picasso, avec tous les grands, en fait, c'est jamais des femmes.
Non. Et du coup, bah, pour Roman Brooks, elle avait des difficultés par rapport à la lesbophobie qui était hyper présente. Et elle s'affichait pas en tant que lesbienne, mais elle peignait des portraits de lesbiennes ou des portraits qui remettaient en cause le genre. C'est-à-dire qu'à un moment, elle fait un très beau portrait d'Anna Klugstein, artiste également qui questionne le genre en l'intégrant dans sa vie à part entière, c'est-à-dire qu'elle se fait reconnaître sous le nom de Peter. Donc il y a aussi ça, il y a aussi une identité affirmée pour certains artistes et certaines artistes. Et il y a aussi des peintres qui signaient pas de leur nom, qui
empruntaient un nom de gars ou qui empruntaient le nom de son frère ou de son père.
Ouais. Alors dans les livres d'histoire, j'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qu'elle voulait représenter en fait. Ces artistes lesbiennes, elles apparaissent dans l'histoire. Si elles apparaissent dans l'histoire, c'est parce qu'aussi elles sont blanches et elles viennent de classe bourgeoise, donc on l'a assez dit, je pense. Et je dois dire que les recherches, elles sont également limitées parce que les historiens et les critiques, qui sont des hommes, ils n'ont pas considéré qu'il s'agissait d'un vrai art. Et souvent, c'est ça qui est dit. Et c'est... on peut s'apercevoir qu'il y a eu des moments d'histoire où le pouvoir phallique espère rester en place et mettre plusieurs barrières pour la culture des femmes et des lesbiennes. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a eu des barrières, il y a eu un soulèvement et une culture qui commençait de plus en plus à se faire ressentir. Donc on pourrait pas dire, proprement parler, qu'il y ait un art lesbien ou... une culture, enfin si, maintenant on peut dire qu'il y a une culture lesbienne, mais c'est pas pour c'est juste pour c'est une histoire de visibilité, quoi. C'est une histoire de pas qu'on parle pas à notre place, quoi. Et malgré tout, ça se fait toujours dans ce contexte, dans le contexte des hommes, quoi, de la cité, de leur pouvoir en fait. Et les critiques, elles viennent pas de femmes, elles viennent de ce milieu-là, quoi, de ce milieu d'art qui est pourri, en fait.
Puis je trouve qu'il y a deux, du moins dans la peinture de Gwynne, il y a deux trucs qui s'accumulent. C'est déjà que c'est une peinture, du moins être une femme peintre, c'est compliqué. Mais ensuite, représenter d'autres choses que l'hétérosexualité, ça fait une double barrière où on voit que c'est ultra compliqué, quoi.
Ouais.
Et peut-être j'ai une autre question si ça te va, oui. Comme il reste quelques minutes, mais comme on parle, tu parlais aussi du début du 20e, je voulais savoir s'il y avait des photographes, peut-être si vous êtes au courant de...
Eh ben, il y a Claude Cahun, qui est photographe et qui elle aussi remet en question le genre et les identités. Et par contre elle assumait pas du tout sa vie, quoi. Elle travaillait en collaboration avec son amante, mais elle lui laisse pas de place, en fait. Il y a pas la reconnaissance. De toute façon, ces femmes, elles la cherchent au travers de la culture des hommes, en fait, puisque c'est la seule qui existe. Donc il y a cette nécessité d'avoir une place. Et que je trouve que du coup c'est leur après c'est un combat qui va naître, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment on va vouloir aller ailleurs, de se débarrasser de tout cet héritage phallocrate. Donc je connais Claude Cahun, qui elle représente, elle se photographie dans un genre masculin, elle efface ses frontières de son identité. Et elle, je pense qu'on peut dire qu'il y a une artiste contemporaine qui s'inspire un peu de son travail. Ah mince, je suis en train de parler d'une autre chose et j'ai oublié le nom. Ça arrive, c'est quoi ? Non, j'y arriverai pas. Et du coup, voilà. Mais il y en a tellement, en fait. Il y a beaucoup de. Il y a quand même, je veux dire, c'est pas deux exemples comme ça. Il y en a pas. Il y a quand même beaucoup de femmes artistes. Et Gwynne qui mérite d'être vue, quoi.
Là, ça va être la fin de la mission. Est-ce que il y a encore 2 minutes pour conclure ? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ?
Non. Je veux juste présenter les deux livres que j'ai lus, les trois. Alors, il y a Marie-Jo Bonnet. Les deux amis, qui fait un essai sur le couple de femmes dans l'art. Donc très intéressant, évidemment, c'est ça qui m'a donné envie de parler de ce sujet. Et puis un petit bouquin assez agréable et très synthétique, qui c'est de Arlette Perrin, qui s'appelle Artiste lesbienne, domaine des arts plastiques, Paris, fin 19e, début 20e.
Voilà, avec aussi un autre livre de Marie-Jo Bonnet, Les relations amoureuses entre les femmes du 16e au 20e siècle.
Et je pourrais juste rajouter en quelques mots, du coup c'est quelque chose à continuer, d'essayer de chercher une culture et de l'ouvrir aux gens.
Et pour finir, c'est pour dire que nos chers amis qui sont venus nous présenter ça reviendront janvier, février, je sais pas exactement encore, pour faire un deuxième volet de cette émission qui est la peinture d'Egwin, mais dans à l'époque contemporaine, où il y a une foule d'artistes qui fait qu'on voulait pas en parler dans la même émission, ça aurait fait trop.
Et là encore, il y a encore plein de choses à dire, je trouve. Mais bon.
Ouais.
Voilà, c'est... Au revoir.
Ciao, bah, la semaine prochaine alors. Non, dans 2 semaines. Et puis la semaine prochaine, c'est Lilith Martin et les autres.